de la neige. Vous savez, j'aime beaucoup cette histoire-là entre Jésus. C'est pas sur ça que je pêche demain. J'aime beaucoup cette histoire-là parce que Jésus, il dit que le sage qui a bâti sa maison sur le roc, c'est celui qui quoi? C'est celui qui met en pratique les paroles que je vous ai dit. C'est la fin du sermon sur la montagne. Jésus vient de parler, il vient de faire des enseignements, puis il dit, ben celui qui est sage, là, celui que sa vie tient debout et puis qu'il va réussir, même quand il va venir des épreuves, il va se tenir debout, c'est celui qui met en pratique ce que j'ai dit. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que ça nous encourage justement à pas être des auditeurs oublieux, mais à écouter qu'est-ce que Dieu nous dit, puis à transformer nos vies aussi. C'est ça le but que d'écouter les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Et justement, ce matin, ben je vais prendre quelques minutes pour synthétiser avec les Écritures dans un sens, mais ce ne sera pas synthétiser, mais du moins expliquer les deux témoignages qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces mots-là. Par exemple, j'ai été sauvé, j'étais perdu à cause des péchés, et puis, mais les Écritures en parlent. C'est Dieu qui nous dit ça. Dieu est en train de révéler notre état. Dieu, il veut nous parler. Ce matin, je veux vous parler de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu le titre sur le bulletin. J'ai écrit « Naître ou ne pas être ». Là est la question. Naître ou ne pas être. Et on est dans le temps de Noël. Jésus est né. Et on se souvient de ça. Tout le monde, on sait c'est quoi Noël. Et puis, mais qu'est-ce que symbolise? Qu'est-ce que ça change dans ma vie que Jésus soit né? Naître ou ne pas être. J'étais allé voir un forum sur Internet qui posait la question, aimez-vous Noël? Hein, je peux vous poser la question, est-ce que vous aimez Noël? Oui. J'espère que vous aimez Noël. Ça se peut que vous disiez non. Il y a différentes raisons sur le forum que les gens expliquaient de leur amour de Noël. Certains disaient, bon, on est obligé d'acheter des cadeaux, même aux gens que pendant l'année, on n'a jamais l'occasion de montrer notre affection, on va leur acheter des cadeaux quand même. Alors la personne se voyait comme un peu hypocrite. D'autres personnes répondaient, je déteste le côté commercial qu'a apporté la société moderne face à Noël. Moi, j'aime pas Noël à cause de tout ce qui est véhiculé avec le commerce. Il y en a d'autres qui vont dire « J'ai horreur de Noël, c'est une vraie corvée pour moi tous les ans. » Alors, j'ai la misère à me reposer. D'autres, une autre personne a répondu « C'est le seul jour de l'année où nous nous retrouvons tous en famille. » Peut-être que vous aimez Noël parce que c'est une journée en famille. Ça peut être des bonnes raisons, là, ces choses-là. Je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. Une dernière personne, et la seule personne que j'ai trouvée sur le forum, a écrit « Oui, repos et retrouvailles, amour de Jésus pour nous, pauvres pécheurs. » C'est bien, je trouve ça intéressant. Noël est rendu un peu comme, vous avez déjà sûrement entendu une histoire, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est réellement arrivé, cette histoire où pendant un réveillon de Noël, on place le bébé sur un lit, les invités arrivent, on prend les manteaux sans que la personne sache que le bébé est couché sur le lit, puis on lance les manteaux par-dessus le lit, et puis le bébé meurt suffoqué. C'est comme si l'histoire de Noël, des fois, elle ressemble un peu à cette image-là, où Noël est là, il est présent, il crie, il pleure, puis qu'est-ce qu'on fait avec notre brouhaha de tous les jours? Est-ce qu'on se soucie plus le sens réel de ce que c'est Noël, de la naissance, de l'incarnation de Jésus? Puis là, on va prendre nos manteaux, puis on va lancer ça par-dessus, ce que c'est le sens réel. On va l'étouffer avec le Père Noël, on va l'étouffer avec la dinde. La dinde, c'est pas mal, là, j'en mange, là. Mais le sapin, j'en ai un aussi, des guirlandes, des chaussons, alouettes, puis on va tout mettre ça par-dessus, puis tout à coup, hein, on va laisser de côté, finalement, ce que Noël, ce que le sens que Noël est en train de s'étouffer en dessous des manteaux. Mais qu'il n'en soit pas ainsi, je vous invite à tourner avec moi dans Jean 3. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça « naître ou ne pas être » ? Jésus nous a enseigné sur la naissance. Pourquoi est-ce que Jésus est né? Qu'est-ce qu'il veut de nos vies? On va lire ce premier bout de texte dans Jean 3. Après ça, on va faire un mot de prière pour voir ce que Dieu a à nous dire. Jean 3. Si vous n'avez pas une Bible ce matin, puis que vous êtes curieux d'aller fouiller après ça dans votre propre Bible à la maison, prenez un petit bout de papier, notez les références que je vous donne, vous chercherez après. Dans Jean 3, le verset 1 à 3, un homme important, un docteur de la loi, une personne qui connaît la Bible, connaît du moins l'Ancien Testament, les Écritures. Et là, verset 1, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si un homme naît de nouveau, j'étudie un... Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus est en train de dire, vous devez naître de nouveau. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Mais si je peux, tantôt René faisait une blague avec René, mais effectivement, c'est le sens que Jésus veut qu'on vive dans nos vies, qu'on soit des gens qui naissions de nouveau, qu'on ait cette nouvelle naissance-là. C'est ce que Jésus veut nous apporter. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quelle joie! J'ai 3 enfants, j'ai un 4e qui s'en vient, c'est une joie. Mais quelle joie que d'avoir eu dans le passé, il y a 2000 ans, ce fils qui est né, qui était Jésus, qui est venu nous rencontrer, qui nous a été donné. Jésus est né pour que nous puissions naître, nous aussi. Jésus est né pour nous donner la vie, pour que nous puissions avoir la vie. Je fais un mot de prière et après ça, on va regarder ensemble les Écritures. C'est ce que Dieu a à nous dire. Dieu, on vient devant toi pour premièrement te louer. Quel amour que tu as eu pour nous, pour venir nous rencontrer, nous donner ta vie, donner ton Fils unique. On est vraiment reconnaissant. Et ce matin, Dieu, on te prie pour que tu puisses, avec ta parole, parler à nos cœurs, parler à nos têtes. Dieu, on veut comprendre, on veut savoir c'est quoi que tu as fait pour nous. Qu'est-ce que tu t'attends de nos vies aussi? Et dirige-nous, Seigneur, dans ta parole. C'est dans ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. Merci, Claude. Je pourrais pas passer à côté d'un verset si important ce matin dans le contexte. On était dans Jean 3. J'aimerais qu'on lise le verset 16. Un verset que vous avez probablement déjà entendu, vu. Prenons le temps de le lire. Le sens de Noël qui prend tout son sens avec l'œuvre de Dieu ici. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici l'œuvre de Dieu. Naître ou ne pas être. À travers Noël, on découvre la réalité de l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. L'amour de Dieu s'est manifesté envers moi, envers toi, par un cadeau, par un don. Dieu, la réalité de son amour. Peut-être vous allez vous dire, ouais, mais Dieu, il est où dans nos malheurs? Il y a certains qui ne croient pas en Dieu vont dire, oui, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe quand il arrive des difficultés dans le monde? Où est Dieu? Est-ce qu'il nous aime réellement si le malheur existe sur la terre, si le péché existe sur la terre? Quel est l'amour réel de Dieu pour nos vies? Dieu m'aime et Dieu vous aime et c'est une réalité importante de croire. Mais Dieu nous a pas créés comme des robots. Dieu nous a pas créés comme des gens qui allaient être obligés de le suivre. Dieu, il a fallu qu'il puisse harmoniser, je vais utiliser 3 mots, la sainteté, sa sainteté, son amour, et puis une chose qu'il nous a donnée, c'est la liberté. Comment jongler avec ces 3 choses-là? Hein, on pourrait dire, il me semble qu'au nom de l'amour, Dieu pourrait donner l'amnistie internationale, surtout péché pardonné pour tout le monde, au nom de mon amour, c'est terminé. Mais il y a un problème, la sainteté de Dieu qui réclame aussi une condamnation, une justice pour les péchés. Comment est-ce que Dieu allait harmoniser sa sainteté, son amour et puis notre liberté? Parce que Dieu vous a donné la liberté. Dieu m'a donné la liberté. Dieu m'a donné la possibilité de choisir. De choisir, oui, je vais obéir à Dieu. Ou non, je ne vais pas obéir à Dieu. Alors Dieu, dans son amour, a harmonisé ces 3 choses-là. Sa sainteté, son amour et aussi notre propre liberté. Je vais vous citer Matthieu 1. Vous pouvez tourner avec moi. Matthieu 1, versets 20 à 23. OK. J'ai apporté ici en même temps que vous tournez, là. Un exemple que je cite quelques fois. Puis là, je l'ai apporté live. Ça, c'est quoi? Un toaster. Ou un grille-pain. OK? J'ai un grille-pain ici. Vous avez reconnu, hein? Et là, je pense qu'il va tomber. Je vais le mettre comme ça. Un grille-pain. Ça fait quoi, un grille-pain? Ça grille du pain. Hey, c'est bon, c'est bon. OK? Dieu nous a tellement aimés, il nous a donné la vie. On a la vie en dedans de nous, où est-ce qu'on peut marcher, respirer, faire des choses. Et un grille-pain est là, et personne d'entre nous va s'obstiner et dire non, ça c'est un micro-ondes. C'est vraiment un grille-pain, sa fonction, c'est ça. Mais on va voir à travers la suite. Si on peut s'illustrer par le grille-pain, qu'est-ce que Dieu veut nous donner? Qu'est-ce que Dieu veut nous accorder? Dans Matthieu 1, tantôt, je disais, oui, mais il est où Dieu? Est-ce que Dieu a fait quelque chose, m'a montré son amour? Oui, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Il nous a donné son Fils unique. Et dans Matthieu 1, versets 20 à 23, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui, quoi? Sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie quoi? Dieu avec nous. Est-ce que Dieu s'est soucié de nos problèmes? Mais oui! Est-ce que Dieu s'inquiète de nos vies, qu'on soit perdu, qu'on soit dans le péché? Oui! Dieu a donné Jésus qui va sauver son peuple. Dieu parmi nous, Dieu est venu nous rencontrer. Et ça, ça peut concilier l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils. À cause de la mort à la croix de Jésus, ça va concilier sa sainteté aussi, puisque lui, il était innocent, il est mort pour nous qui étions des pécheurs. Et ça va concilier aussi notre liberté, parce qu'on a un choix à faire. Parce qu'on peut dire oui ou on peut dire non. Mais Dieu nous a montré son amour. Naître ou ne pas être, à travers Noël, on découvre la réalité de l'amour de Dieu pour nos vies. Et c'est ce que Dieu a fait en envoyant son Fils, en accomplissant aussi les prophéties. On aurait pu citer plein de prophéties qui annonçaient le plan de Dieu que Jésus devait naître. Dans la naissance de Jésus, la prophétie, du moins de ce que l'ange est en train de dire à Joseph, est en train de s'accomplir. Naître ou ne pas être, à travers Noël, nous découvrons la réalité aussi du cadeau. De ce que Jésus nous a, de ce que Dieu nous a offert. La semaine dernière, on entendait Éphésiens 2. J'ai apporté Éphésiens 2, 8 dans une autre version qui dit la même chose. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Ce que Dieu vous donne, la vie éternelle, ce que Dieu veut vous donner, c'est un cadeau de Dieu. Est-ce que vous pouvez l'acheter, ce cadeau-là? Au moment que vous décidez de l'acheter, ce qui est impossible parce que c'est un coût trop grand, au moment que vous dites, « OK, moi, je vais l'acheter », c'est plus un cadeau. C'est plus la grâce. Vous venez de le payer. Et vous serez jamais capable de le payer. Êtes-vous capable de donner le montant du sacrifice de Christ sur la croix? On ne pourra jamais monnayer ça. On ne pourra jamais dire combien ça a coûté. Et on peut l'accepter par la foi, accepter cette grâce-là. Il y a un homme dans la Bible vraiment mauvais, qui était mauvais, méchant, un meurtrier, un blasphémateur. Et savez-vous qu'est-ce que Dieu a fait avec cet homme-là? Il l'a sauvé. C'était Paul, autrefois appelé Saul. Tournez avec moi, je cite rapidement les textes ce matin, mais 1 Timothée 1, les versets 13 à 15, un autre passage peut-être que vous connaissez, mais 1 Timothée 1, 13 à 15, Paul, on va citer l'apôtre Paul, mais quel homme, hein, quel homme qui a été pour Dieu spirituel, un homme engagé. Oui, mais avant ça, là, il était quoi, Paul? Il était perdu. C'était un homme qui avait besoin de Dieu et regardez qu'est-ce qu'il va dire de lui-même. Mais qui était auparavant, verset 1, je commence au verset 13, un petit peu plus loin, là. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ.